Commencé depuis le début janvier à prêcher sur la prière, amen. Et la semaine passée, j'avais dit que cette semaine, j'enseignerais sur le jeûne, chose que je me suis préparée à faire pour ce soir. Et je crois que ça va peut-être durer pour une couple de semaines aussi, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, amen. Parce que j'avais un petit peu plus de choses à dire que je pensais que je voulais dire. Amen, gloire à Dieu. Moi, quand je suis venue au Seigneur Jésus, ça fait de cela maintenant 33 ans, j'ai toujours commencé mon année par un jeûne prolongé, qu'on appelle. Au moins, minimum 21 jours. Ça, c'est le minimum. Un jeûne prolongé. Et ça m'a toujours aidé à préparer mon année au complet. Amen. Ça me faisait commencer l'année. Moi, jeûner, j'appelle ça partir en voyage avec le Seigneur. Amen. Parce que ça assujettit tellement la chair, puis on fait tellement plus de choses spirituellement que c'est comme si je prends une vacance au début de l'année avec le Seigneur en jeûnant. Alors, je préparais toujours mon année, puis toujours avec des jeûnes, comme j'ai dit. Il y en a qui connaissent ici les jeûnes de Daniel, qu'on appelle, les jeûnes qui, des fois, on n'élimine pas tout, là. Moi, je n'ai jamais fait de jeûne juste à l'eau. Ma sœur Huguette, elle a fait ça, le 21 jours, juste de l'eau, pas moi. Mais des jeûnes de Daniel, c'est que Daniel se privait de mets délicats, puis se privait de différentes choses. Et puis, moi, j'essaie toujours de faire un jeûne au moins au liquide avec des potages pendant 20-21 jours. Et après ça, on verra ce qui suit par la suite. Amen. Mais on appelle ça des jeûnes prolongés. Ce que je veux dire ce soir, beaucoup concernant les jeûnes, c'est que j'ai appris beaucoup justement par les jeûnes parce que je voulais savoir ce que le jeûne ferait, puis ce que je voulais savoir ce que ça m'apporte, puis je voulais savoir pourquoi c'est écrit dans la Bible le jeûne. Puis, alors ça m'a ouvert un petit peu les yeux à savoir qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Premièrement, un jeûne, ce n'est pas juste se priver de nourriture. J'ai déjà vu un homme qui avait décidé de jeûner son journal, qu'il lisait à tous les jours. Il était chrétien, puis lui, c'était son journal à tous les jours. Et puis, il a jeûné pendant un mois. Au bout d'un mois, j'ai perdu le goût. J'ai complètement arrêté ça. Amen. Mais c'est pas un jeûne, c'est se priver de quelque chose, mais pour un but spirituel. C'est pas juste, je fais un jeûne puis je me prive de nourriture, ou je fais un jeûne puis je me prive de la TV pendant une semaine, ou je fais un jeûne. C'est pas juste se priver de quelque chose. C'est se priver de quelque chose, mais pour un but spirituel. Amen. Alors, le jeûne aussi, c'est nous qui déterminons la longueur de notre jeûne. Amen. Moi, si on fait un jeûne de groupe, dans le sens que, supposons je donne un exemple, il y a un grand évangéliste qui vient ici à Sherbrooke, puis on prépare quelque chose de grandiose, puis on est guidé par l'Esprit pour dire à l'Église, exemple, est-ce que vous voulez, cette semaine, on va faire jeûne et prière? Ça peut arriver, qu'on va proposer aux gens, ou des fois une journée de jeûne et prière, ou ça m'est déjà arrivé de dire aux gens, voulez-vous jeûner quelque chose le mercredi? On a un invité, des choses comme ça. Mais le jeûne, vraiment, c'est nous qui le décidons, qu'est-ce qu'on a dans notre cœur. Il y en a des fois des jeûnes que des gens vont s'en aller à rien du tout sauf de l'eau, mais ils vont faire ça 2 jours de temps ou 3 jours de temps. Je connais un homme qui venait prêcher au début dans notre église, M. Bertrand Bouchard, puis lui, il a toujours, à tous les mois, jeûné 3 jours de temps, à tous les mois, pour préparer chaque mois. Il se préparait en prière, puis recherchait qu'est-ce que Dieu voulait pour le mois qui commençait. Mais c'est nous qui déterminons la longueur de nos jeûnes. Daniel a jeûné 21 jours, Jésus a jeûné 40 jours, c'est nous qui le déterminons. Amen. On va regarder en premier des choses simples, mais on va aller dans Matthieu 6. Je veux qu'on voit quelque chose ici. Vous savez, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, et je vais au verset 31, ça dit, « Ne vous inquiétez donc point, puis ne dites pas, Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc point du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, la parole de Dieu nous dit ici de ne pas s'inquiéter, puis de rechercher le royaume de Dieu, puis la justice de Dieu en premier. Amen. Maintenant, on va aller voir c'est quoi la justice de Dieu. Fait que si je vais au verset 1, vous allez voir que tout le chapitre parle de la justice de Dieu. Ça dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. » Bon, fait que là, on va voir c'est quoi la justice. Il dit « Pour en être vu autrement, vous n'auriez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Donc, lorsque tu fais l'aumône, bon, bien ici, on voit que faire l'aumône, c'est pratiquer la justice de Dieu. Amen. Alors, ils disent de quand tu fais l'aumône, tu n'es pas obligé de sonner de la trompette puis dire à tout le monde qu'est-ce que tu fais. Amen. Après ça, au verset 5, ça dit, lorsque vous priez, on continue toujours à parler de la justice de Dieu. Ça dit, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à se tenir debout sur le coin de la rue pour montrer à tout le monde comment ils sont capables de prier. Amen. Et ils ont déjà leur récompense. Le monde les regarde. Amen. Mais il dit, faites-le dans le secret. Rentrez dans votre chambre. Faites ça secrètement. Après ça, si on va au verset 16, ça dit, lorsque vous jeûnez. Ah, OK. Ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui est là dans le secret te le rendra. Amen. Alors, on voit ici trois choses principales pour faire la justice de Dieu. C'est faire des aumônes, prier et puis jeûner. Amen. Et on va aller, si vous voulez, on va rester dans cette même idée-là. On va aller à Ecclésias 4, parce que Ecclésias, c'est après Proverbe. Il y a Cantique et Ecclésias 4. Et je vais lire le verset 12. Ça dit, « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils, ne se rompt pas facilement. » Je vais le relire. « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. » Vraiment, la base pour pratiquer la justice pour un chrétien, c'est faire des aumônes, prier, puis jeûner. Ça, c'est supposé d'être la base. Amen. Vous savez que quand on regarde au ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, puis on regarde dans les quatre évangiles, c'est les trois choses qu'il faisait continuellement. Il cherchait Jésus, il le trouvait dans le jardin en train de prier, soit tard le soir, soit de bonne heure le matin. Jésus jeûnait continuellement. Il a jeûné même pour préparer son ministère. Et on sait qu'il prenait soin des pauvres. Les aumônes, c'est pour les pauvres, les gens dans le besoin. Amen. Alors, on sait que notre Seigneur Jésus-Christ faisait ces trois choses. Puis ça, on appelle ça le fil à trois brins. Quand une personne chrétienne, vous savez, la foi vient d'entendre la parole de Dieu, il ne faut pas négliger de s'assembler, il faut marcher par la foi, il faut croire par la foi, il faut apporter nos dîmes, il faut pardonner, toutes ces choses-là. Ça, c'est des choses qu'on apprend dans la parole de Dieu et qu'on pratique. Mais notre justice devant Dieu, la corde à trois brins, c'est quelqu'un que dans son cœur, il veut toujours prendre soin des autres. C'est qu'il a un cœur en prière devant Dieu et il se tient spirituellement devant Dieu en jeûne. Ça, c'est la corde à trois brins. Et ça, c'est pratiquer sa justice. Et quand on regarde justement à Matthieu 6 qu'on vient de lire, on peut voir une chose, que ces choses-là sont faites comme une discipline privée. OK? Dans Matthieu 6, parce que la parole de Dieu nous dit que quand tu fais le monde, sonne pas de la trompette. Fais ça privé. Quand tu pries, tu n'es pas obligé de t'en aller sur le coin de la rue. Rentre dans ta chambre, fais ça discrètement, privé. Amen. Et quand tu jeûnes, arrange-toi pas pour arriver à l'église, puis tu es toute blinde, tu ne mets pas de maquillage pour montrer, regarde comment je l'aime à gagner, comment je fais des sacrifices. Parce que ce n'est pas supposé d'être un sacrifice faire ça. Ce n'est pas supposé d'être ça. Celui qui sonnerait de la trompette, c'est qu'il voudrait montrer ses œuvres. Amen. Ou celui qui se placerait sur le coin de la rue, ce qui voudrait montrer ses œuvres, ou celui. Et Dieu dit, c'est pas des œuvres que vous faites. C'est la simplicité de la justice de Dieu pour un chrétien. Alors, c'est quelque chose que c'est une discipline qu'on doit faire privée. Ça ne veut pas dire que quand tu viens à l'église, tu dis, moi, je donne pas parce que je fais ça en privé. OK. Moi, je ne fais pas partie des groupes de prière parce qu'il n'y a pas de garde-robe ici puis je ne peux pas rentrer dans le garde-robe pour prier. Moi, je ne jeûne pas, je ne dis pas à personne que je jeûne. Moi, ça va arriver. Des fois, quelqu'un va nous inviter au restaurant puis ça arrive justement que c'est dans le temps de mon jeûne de liquide. Et là, je lui dis, si ça ne vous fait rien, moi, je vais prendre juste une soupe. Ça ne veut pas dire que je suis toute blême, là, puis je lui montre comment je suis triste, là. Non, non. Je regarde, ça donne bien. Après ça, mon linge me fait mieux, tu sais. Non, je suis contente. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est une discipline privée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que oui, tu peux faire partie des groupes de prière, tu peux prier, tu peux donner pareil, tu peux faire tes choses. Mais il y a une discipline privée du chrétien que Dieu s'attend que lui puis toi, il va te regarder faire. Puis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent montrer qu'ils font des bonnes œuvres. Dieu dit, c'est pas quelque chose doit être en démonstration, c'est quelque chose de privé que je m'attends que tu vas faire et que tu sais. Puis ça démontre aussi ta foi, parce que, vous savez, il y a des gens qui disaient des fois, ça paraît peut-être pas, mais je donne beaucoup, vous saurez. J'ai pas besoin de le savoir. Si tu as la foi, tu vas savoir que Dieu te regarde. Et dit, ton Père voit dans le secret. Amen. Puis ça démontre ta foi. Dieu, il peut voir que quelqu'un a la foi quand personne ne sait, puis cette personne-là a pris 3 heures de temps par jour, à tous les jours, chez eux, toute seule, puis ça prend de la foi. Parce qu'il n'y a pas personne pour t'applaudir, il n'y a pas personne pour dire « Wow, je te dis que tu pries ». Comprenez-vous ce que je veux dire ce soir? Mais le jeûne fait partie de ça. C'est une discipline privée de faire des aumônes, donner à du monde, rife and lef, sans que personne ne sache, prendre soin des pauvres. Vous savez, des pauvres, il y en a dans l'Église. Gênez-vous donc pas, ça vaut la peine. Je vous le dis, la parole de Dieu dit que quand on donne aux pauvres, on prête à Dieu. C'est la seule chose que tu y prêtes. Amen. Alors, faire des aumônes, prier et jeûner, ça fait partie de la justice de Dieu. De pratiquer ta justice devant Dieu. C'est une discipline privée, mais c'est une récompense publique. Parce que Dieu qui voit dans le secret te le rendra. Fait qu'à un moment donné, les gens vont dire, « Moi, je ne comprends pas. Comment ça se fait qu'on dirait que cette personne-là est bénie, puis bénie, puis bénie? » Peut-être que Dieu y a vu dans le secret beaucoup de choses, puis est après la récompenser publiquement. Et même Kenneth Copeland, une fois, il avait fini un service. Et puis, il y a quelqu'un qui est arrivé, puis il a pris ses clés d'auto comme ça, puis il a fait ça, puis il a lancé, puis Kenneth Copeland l'a reçu, il dit, je voulais le Seigneur m'a dit de te donner cette auto. Cette auto. Cette auto. Cette auto. Et puis, Kenneth Copeland, il est allé devant Dieu, lui qui est habitué, là, je le demande, je le confesse, je le crois, Il dit, Seigneur, je ne me souviens même pas de te l'avoir demandé. Le Seigneur dit, non, tu ne me l'as pas demandé. Mais il dit, je t'ai vu quand tu as obéi, puis je t'ai demandé de jeûner une fois pour une telle situation, puis tu t'es appliqué à jeûner puis à prier, puis il dit, c'est ma récompense. Dieu voit dans le secret. Et vous vous souvenez aussi, Pasteur Réal et moi, quand on avait fait le service funéraire d'une personne qui était vraiment pas reconnaissante du tout, et puis elle avait été même très méchante envers nous, elle avait même travaillé beaucoup pour qu'un couple arrête de venir à notre église, puis très méchante. Mais on avait toujours resté proche de son mari, puis quand il a eu le cancer, puis on l'a suivi tout le long, puis il est décédé, bien là, elle dit, vous allez faire le service. Ben, elle dit, j'avais l'église pour, dans ce temps-là, la petite église. Ben, elle dit, nous autres, on n'a pas l'argent, là, on ne louera pas après pour aller manger ailleurs. Fait que, vous dites, trouvez-nous une place que ça ne coûte pas cher, qu'ils viennent livrer, vous allez organiser ça. Fait que Pasteur Réal et moi, on a fait le monde. On a marché en amour pour nous prier. Amen. On n'a pas jeûné, c'est la seule chose qu'on n'a pas fait. Amen. On a fait tout ça, puis on a dit, puis vraiment, c'était ingrat, là. Je peux vous dire, c'était très, très ingrat de la façon dont ça avait été fait. Mais on a marché en amour, puis on a pratiqué notre justice devant Dieu. Quand on est arrivé chez nous, puis j'ai dit à mon mari, c'est à peine s'il y a eu un merci avec la bouche croche, là, c'est tout. Quand on est arrivé chez nous, j'ai dit à mon mari, comme je vous dis, quand on prie ensemble chez nous, le salon, on a une marche, hein, fait que lui, il descend en bas, puis moi, je reste en haut, fait qu'on est à la même hauteur, on se regarde dans les yeux. J'ai dit, on pourrait chioler, il dit oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans ces années-là, on n'avait même pas de salaire. Là. Vous savez, mais on savait que c'était. On sait trop qui est en arrière des gens. C'est le diable. C'est lui qui essaie de nous agresser tant qu'il peut pour nous faire perdre contrôle et nous empêcher de pratiquer notre justice devant Dieu. Amen. J'ai dit, on pourrait chialer, mais on va marcher en amour. On va même prier pour eux autres. Puis. On va remettre ça dans les mains de Dieu. Puis j'ai dit, Dieu, il dit qu'on ne perd pas notre récompense. Quelques mois plus tard, c'était la première fois de ma vie qu'une chose de même arrivait. Le téléphone a sonné, c'était nos amis de la Floride qu'on n'avait pas vu depuis l'école biblique qui nous appelaient. Ils ont dit, avez-vous vos passeports? On a dit, oui. Quand est-ce qu'ils sont échus? Bien, on les avait encore pour une couple d'années. Est-ce que le mois de novembre, vous êtes très occupé? Non, j'ai dit, c'était vraiment un mois mort. Ils ont dit, c'est parce qu'on vous book pour une croisière. Oh, puis on va vous flyer en avion, vous allez prendre l'avion. On s'occupe de tout ça. Son mari avait été Air Traffic Control. C'est lui qui travaillait dans les tours de contrôle. Fait que, disons que c'était assez facile de nous flyer. Alors, il a dit, on va vous faire venir en Floride de telle date à telle date, puis on vous amène en croisière. Moi, je n'avais jamais fait de croisière de ma vie. Hey! Moi, c'était Love Boat. Ta la la la. On sort la robe blonde. La, la, la. Hey, moi, là, j'étais tout énervée, vrai, là. Puis là, quand mon mari est arrivé, bien, il m'a décroché du plafond. J'ai sauté dans les airs. Puis là, je me suis assise sur la chaise versante, puis je pleurais, puis j'ai dit, Seigneur, Seigneur, mais. « Wow, c'est quoi ça? » Puis en disant ça, comment ça se fait que j'ai ça? Un flash, je me suis revue dans le salon après prier avec mon mari, puis il dit, « C'est ma récompense. » C'est ma récompense. Amen. C'est pour ça qu'il dit, « Ne vous inquiétez pas. » Puis, demandez-vous pas que vous allez manger, que vous allez boire, de quoi vous serez vêtus. Pratiquez votre justice. Amen. Recherchez le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Amen. Gloire à Dieu. Alors vraiment, pratiquer ces trois choses-là, c'est comme un fil à trois brins dans nos vies de chrétiens. C'est ça que je veux qu'on comprenne aussi ce soir. C'est comme un fil à trois brins qui est fort dans notre vie. De toujours penser aux autres. Toujours être prêt à bénir quelqu'un, aider quelqu'un. Mon frère Fernand est revenu de l'Afrique. Il est allé au Libéria. Il a été très bien reçu, mais il s'est passé des grandes choses aussi, merveilleuses, qu'il me disait au téléphone. Et puis, Pasteur Réal et moi, on l'avait béni, Sylvie Bernard, Huguette, naturellement la famille. Et puis, d'autres personnes. Puis il dit, vous avez la même récompense. Puis il me racontait toutes les choses merveilleuse qu'il avait pu faire, puis comment qu'il avait pu être une bénédiction là-bas, puis ils veulent le réavoir absolument. Au mois de novembre, ça a été grandiose. Merci, Seigneur. On est content parce qu'il a 76 ans, puis le Seigneur, il m'avait donné une écriture pour lui, justement pendant le temps que j'avais commencé mon jeûne au début janvier. Et puis, le Seigneur, je priais pour lui, puis je disais, Seigneur, il est rendu à 76 ans, ça fait longtemps qu'il n'y a pas vraiment... Je me souvenais du début de son ministère, comment il priait sur les gens, puis il était guéri instantanément des cancers, toutes sortes de choses. Il a prié une fois pour un homme chez eux qui avait le diabète, il était tout enflé, puis en priant sur l'homme, l'homme il a désenflé comme ça, sa bague a tombé à terre. Tu sais, c'est incroyable les miracles qui se passaient. Premièrement, toute notre famille, on a été sauvés en dedans de 6 mois. 6 mois, 17 personnes sur 18, en dedans de 6 mois, c'était grandiose. Le Seigneur, il m'avait donné Samson comme exemple. J'ai dit, Seigneur, permets-lui de retrouver la force qu'il avait au début. Comme Samson. Amen. Puis je peux vous dire que ça l'a brassé là-bas. Amen. Gloire à Dieu. Mais merci, Seigneur, pour les récompenses qu'on a. Et ce qu'il me disait aujourd'hui, il dit, tout le monde, on va avoir la même récompense que moi à l'autre côté. Fait qu'on va voir des libériens. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Mais un fil à 3 brins de quelqu'un qui est généreux, autrement dit, qui fait des aumônes, qui prie constamment tout seul, puis qui jeûne aussi. Tu sais, se lever le matin puis dire, Seigneur, aujourd'hui, moi, jeûne. Il y a une telle personne, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Edlise. Tiens, moi, jeûne pour cette personne-là, Seigneur. Personne ne sait, tu fais ça dans le privé. La parole de Dieu, on va relire les 3 choses dans Marc 6. Ça dit, mais quand, le verset 3 pour celui qui fait des aumônes, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Après ça, si on regarde pour la prière, c'est la même chose. Au verset 6, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le jeûne, c'est la même chose au verset 17. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Ça veut dire que Dieu s'engage. Dieu s'engage. Puis c'est le fun quand on a les 3 brins continuellement. Amen. La prière te rend capable de faire des choses impossibles puis de les voir se manifester. On va aller à la prière et le jeûne, excusez. Matthieu 17, la prière et le jeûne. Matthieu 17, je vais commencer à lire au verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. » Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Reste incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Il pose une question. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Okay? Je vais vraiment expliquer cette écriture-là. Parce qu'il dit... Il y a des démons qu'il faut vraiment s'acharner dans la prière et le jeûne. C'est ça que ça veut dire, de un. Et aussi, qu'est-ce que fait vraiment le jeûne? Le jeûne, on va revenir à cette histoire-là. Le jeûne t'amène dans une fermeté. Okay? Vous allez voir ça des fois dans certains pays. Le monde se couche à terre, sont quasiment une dizaine, puis décident de ne plus manger. Dans le naturel, je parle. Ils ne mangent plus. Ils font la grève de la faim, qu'ils appellent. Au bout de 3 jours, ils essaient de les faire manger, il n'y a plus rien qui va les arrêter. Si tu réussis à passer 3 jours, tu es correct. Tu n'as plus faim après. Il n'y a plus rien pour les arrêter. Il y a comme une fermeté à l'intérieur d'eux. Ils se laissent mourir. Puis là, il faut que les autres passent à l'action parce qu'ils vont se laisser mourir. Ça l'amène une fermeté. Ça t'amène à une place que tu dis, je ne lâche pas. Je ne lâcherai pas. Non. Je ne me suis pas privé de 20 jours sans manger de gâteau puis de pain. Les deux choses les meilleures au monde. Amen. Absolument. Gloire à Dieu. Du pain sans sol, du pain croûté, toutes sortes de pains. Amen. C'est-tu bon? Tu vas arriver dans une fermeté, tu vas dire, je me suis privé 20 jours, puis j'ai prié, si tu penses que je vais lâcher, elle va venir au Seigneur. Comprenez-vous? Ça l'amène une fermeté à l'intérieur de toi. Amen. Et qu'est-ce que ça fait aussi? C'est que ça te garde plus spirituel que charnel. Parce que veux, veux pas, la chair n'est pas pris soin, là. La chair, tu es obligé de la faire taire, la chair, chair. Amen. Et que tu fais taire ta chair, puis t'amènes. Vraiment, qu'est-ce que c'est un jeûne? C'est dire non à ta chair, puis amener ton esprit, puis l'élever. C'est un jeûne. C'est que c'est spirituellement que tu commences à t'élever et tu commences à faire taire ta chair. Tu dis non, tu n'auras pas de gâteau. Non, tu ne mangeras pas de pain. Tu as dit que ce n'est pas long que ta soupe, tu l'as fini, hein? Quand il y a une bonne sandwich, tu apprends, là. Ça, c'est bon. Alors, tu amènes à faire taire ta chair, puis tu élèves ton esprit. Fait que tu deviens plus spirituel. Le même passage qu'on vient de lire, je vais aller le lire dans Luc 9, puis vous allez voir qu'est-ce que je veux dire aussi. Parce que dans Matthieu, ça nous disait que ça prend vraiment le jeûne, ça prend vraiment le jeûne et la prière, tandis que dans Luc 9, ça ne le dit pas. Mais je veux qu'on voit ceci. On va le lire la même chose dans Luc 9, verset 37. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus, et voici, du milieu de la foule, un homme s'écriait, « Maître, je t'en prie, porte le regard sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit le saisit, et aussitôt, il pousse des cris, l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer, il a de la peine à respirer, à se retirer de lui, après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de le chasser, ils n'ont pas pu. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu, tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus. Il dit à ses disciples, et puis là, il lui a parlé. Amen. Mais voyez-vous, je veux juste qu'on voit, parce que là, je le disais vite, parce que ce n'est pas vraiment cette histoire-là que je veux qu'on s'acharne dessus, comme je veux que vous compreniez pourquoi. Parce que, vous savez, Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est 4 évangiles avec les mêmes histoires racontées par des apôtres différents. Luc, c'était un médecin. Des fois, il va nommer même le nom de la maladie. Il va l'exprimer différemment. C'est 4 qui ont vu les mêmes choses et qui les expriment. Un va faire ressortir plus une chose, un autre, c'est une autre chose. Comme j'ai déjà dit, c'est pareil comme un accident d'auto qui arrive sur le coin de la rue et les policiers demandent à 4 personnes différentes qu'est-ce qu'ils ont vu. Il y en a une qui a vu un char qui s'en venait bien vite, puis a foncé, puis l'autre n'a pas fait son stop. L'autre, il a vu que la lumière, elle a toujours resté verte, elle n'est jamais venue rouge. Fait qu'il n'a pas pu arrêter, mais c'est vrai qu'il s'en venait vite aussi. Puis l'auto était bleue, puis l'autre était jaune. Alors, on a toujours plus de détails. Fait que les 4 évangiles, c'est pour ça, c'est des détails qu'on va chercher. Et lorsque je regarde à Luc 9, je m'aperçois qu'au début du chapitre, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Ça veut dire que toute la gang, il avait déjà parti avec la puissance de guérir les malades, puis il les envoya prêcher le royaume de Dieu puis guérir les malades. Puis au verset 10, ça dit, les apôtres étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaida. Et puis là, la foule l'ayant su, l'ont suivi. Puis en plus, Jésus y a fait la multiplication des pains. Après ça, le chapitre d'après, pas le chapitre d'après, mais quelques versets plus loin, ça, au verset 28, ça dit, environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Puis il a monté sur la montagne, puis a été transfiguré. Là, on vient de lire au verset 37, le lendemain, ils ont descendu de la montagne. Là, on a pas mal de détails. Premièrement, Pierre, Jean et Jacques, ils n'étaient pas là quand le monsieur y a emmené son petit gars, son, c'est ça, hein? Ils n'étaient pas là. Ils ont descendu de la montagne. C'est de valeur qu'ils n'étaient pas là. Parce qu'ils étaient toujours là avec Jésus, eux autres. Amen. Quand vous regarderez dans Marc 5, quand Jaïrus, sa fille, est à l'extrémité, c'est qui que Jésus y a emmené avec lui pour guérir, pour ressusciter la petite fille qui était maintenant morte? Pierre, Jean, puis Jacques. Amen. Alors, c'est les autres là, qui sont là, là. OK? Fait que là, on sait que la gang de douteux, ben c'est André, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, Simon, un autre Jacques, Thaddée, puis Judas. Ça, c'est les autres, OK, qui sont là. Ces autres-là, là, ils ont participé au début à aller puis avoir la puissance sur eux pour guérir. Alors, pourquoi qu'on lit dans Matthieu que là, Jésus lui donne la réponse quand on dit « Pourquoi qu'on n'a pas pu faire ça? » Il dit « Parce que vous jeûnez pas puis vous priez pas. Fait que vous gardez pas ce que vous avez. L'onction vient sur vous puis vous l'entretenez pas. Vous vous tenez pas avec votre corde à trois brins, autrement dit. Vous vous tenez pas en prière et en jeûne. Alors, vous maintenez pas la spiritualité qui est venue sur vous. Là, vous devenez charnel. Vous voyez ça, vous dites, hey, c'est épouvantable. On sera jamais capable, on essaie dessus. En tout cas, on n'a pas l'onction comme on l'avait quand Jésus l'a mis sur nous autres l'autre fois. Là, là. Hey, on n'est pas supposé d'attendre d'avoir l'onction. L'onction est sur nous. La parole de Dieu nous dit dans Marc 16, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous chasserez des démons. Si vous buvez quelques breuvages mortels, ils ne vous feront point de mal. Vous imposerez les mains aux malades, puis les malades seront guéris. » Ça, c'est ça vient avec croire. Comprenez-vous? Mais là, Jésus, on a toute l'histoire au complet. Autrement dit, il est descendu de la montagne. Puis là, il voit une foule. Puis là, il est avec Pierre, Jean et Jacques, qui l'ont vu transfigurer avec Élie et Moïse. Et puis, il dit, qu'est-ce qui se passe? L'homme, il dit, j'ai amené mon gars qui est lunatique à tes disciples, là, puis ils n'ont pas pu rien faire. Jésus, il les regarde et dit, race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? C'est à ses disciples qui parlent. Il dit, amenez-le-moi ici. Puis on sait toute l'histoire parce qu'après ça, ils ont demandé comment ça se fait qu'on n'a pas été capable. Et il dit, parce que vous ne vous tenez pas en prière et en jeûne. Amen. Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que si notre Seigneur Jésus-Christ priait continuellement puis jeûnait continuellement, je pense qu'on va avoir besoin de prier et jeûner nous aussi. Amen. Le jeûne est très nécessaire. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi? Pour avoir l'impossibilité de se manifester. Si, autrement dit, Jésus lui a dit, si vous vous tiendriez en prière et en jeûne, vous auriez gardé la même onction que j'avais mise sur vous autres quand je vous ai dit, allez puis guérissez les malades, puis vous auriez été capable. Mais il dit, là, je suis obligé de le faire à votre place parce que moi, je me tiens en jeûne et en prière. C'est ça qu'il disait. Amen. Gloire à Dieu. On va continuer encore un petit peu. Dans Luc 5, verset 34 et 35, La parole de Dieu dit, Jésus lui a parlé, parce que, on va commencer au verset 33. Ils lui dirent, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, ils jeûnent fréquemment, puis ils font des prières, tandis que les tiens, ils mangent, puis ils boivent. Il leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Alors Dieu s'attend qu'on va jeûner. Il dit, là, je suis là avec eux autres. C'est moi qui jeûne puis qui prie. Mais quand ils ont demandé, ils ont dit, bien, si vous voulez savoir la vérité, si vous auriez jeûné, priez, vous auriez été capable. Mais là, il répond à eux autres. Il dit, pendant que je suis là, autrement dit, c'est moi qui fais tout. Je jeûne et je prie. Mais un jour, je ne serai plus là. Je m'attends que là, le monde va jeûner puis va prier. Amen. Donc, c'est quelque chose qui est supposé d'être fait. Vous savez que l'apôtre Paul a été exposé à des jeûnes multipliés. Amen. Il l'a dit lui-même dans 2 Corinthiens 11, juste pour que vous ayez les Écritures. 2 Corinthiens 11, c'est lorsqu'il parle de tout ce qu'il peut avoir été exposé. Et puis, vous savez que la liste est longue, hein? Si on commence au verset 23, il dit, « Sont-ils ministres de Christ? Je parle en trême extravagant. Je le suis plus qu'eux par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent danger de mort. 5 fois, j'ai reçu 40 coups, moins un, par les Juifs. 3 fois, j'ai été battu de verge. » Et il fait la description. Et au verset 27, il dit, « J'ai été dans le travail et dans la peine exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, et à des jeûnes multipliés. » Amen. « Au froid et à la nudité. » Ça veut dire que l'apôtre Paul, vous savez quand l'apôtre Paul, il dit qu'il assujettissait sa chair continuellement. Mais savez-vous comment il faisait ça? Des jeûnes multipliés, puis vous savez comment l'apôtre Paul était un homme qui priait continuellement. Amen. Je vais juste terminer rapidement, mais je peux prendre un petit 5-6 minutes de plus. Là. Pourquoi jeûner la nourriture maintenant? Je veux juste, c'est un autre atout parce que je n'ai pas fini sur le jeûne. Pourquoi jeûner la nourriture? Parce que la nourriture est le roi de votre estomac. Je vais l'expliquer. Ton petit estomac, là, il y a un roi qui veut régner, qui s'appelle « J'ai faim ». OK? C'est la nourriture. Et vous savez que la nourriture a fait pécher bien des gens dans la Bible. Adam et Ève. Ben voyons, a l'air bonne la pomme. C'est de la nourriture. Amen. Sodome et Gomorre. Juste dans Ézéchiel 16, versets 49 et 50, excusez, il parle à propos de comment c'était une ville qui mangeait. Okay. Dans la Bible amplifiée, ça dit qu'il était rempli d'orgueil, qu'il était une abondance très élevée de nourriture, prospère puis trop à l'aise, et ne prenait pas soin des pauvres. Okay. Dans la King James, ça dit que c'était une ville qui avait une abondance de pain. Dans la Bible Message, ça dit que c'était une ville qui avait un esprit de gloutonnerie. Ça veut dire qu'ils ont commencé par trop manger puis ils sont devenus homosexuels. Imaginez-vous, là. Non, mais c'est... Là, on n'a pas le temps de faire toutes les recherches ce soir, mais c'est prouvé dans la parole de Dieu que ça a commencé, qu'ils étaient tellement juste satisfaits par eux autres, puis eux autres, ils mangeaient, puis ils amenaient le roi de leurs estomacs à tellement dominer, puis ils étaient rendus à un point qu'ils ne... faisaient plus, ils ne s'occupaient plus des autres. Quand même, les autres n'avaient rien à manger, pourvu qu'eux autres mangeaient. Puis ils sont devenus tellement dans le péché que ça a été des villes qui ont fini par l'homosexualité. Amen. Ils sont devenus en abomination. Ésaü, il a vendu son droit de bénédiction parce qu'il voulait un bol de soupe. Non, mais pourquoi jeûner la nourriture? Parce que la nourriture, ça peut être grave des fois si tu ne jeûnes pas un peu. OK? Les Israélites, tout le temps qu'ils ont été dans le désert, se sont plaints qu'il n'y avait pas de viande, puis il n'y avait pas de pain. C'est toujours le ventre qui parle. Je vous le dis, ça me parlait beaucoup, là. Gros. Mon mari dit, je commence à avoir faim. Jésus, sa première tentation, c'est « change ces pierres-là, puis mange ». Vous savez, avant, avez-vous remarqué qu'avant de faire un long jeûne, on se paye la traite? Non, mais je ne sais pas si c'est à propos de vous autres, mais moi, une fois, mon mari me regardait faire. Il dit, tu manges donc bien à soir. C'est parce que moi, j'avais prévu de tomber en jeûne le lendemain. J'ai mangé une poutine. Après ça, du pain, puis du dessert, puis des chips d'enveiller, OK? Parce que je sais que pendant 20 jours, j'en mangerai pas. Faites-moi pas croire que c'est pas le roi de l'estomac, ça. Amen. Allons, fais des provisions. Je sais pas si vous autres, ça vous est déjà arrivé, là. Hey, je vais commencer un jeûne cette semaine. T'as dit que là, hey, ça rentre, la bouffe. Tout ce qu'on aime. J'ai tout acheté ce que j'aimais. Tout. Je me suis fait une poudine au riz. Avec de la crème puis du sirop d'érable. Amen. Du popcorn avec du sirop d'érable. Ça, c'est bon. Vous essayerez ça. Vous achetez, je vous le dis. Ben, faut que tu manges le plat ici, par exemple. Parce que ça dégoûte. OK. Puis là, tu fais ton popcorn, il est chaud, puis là, tu mets du sirop d'érable dessus. Puis là, tu manges, puis là, tu sauces ça dans le fond. Okay. Après ça, tu t'en manges une. Non, mais faites-moi pas croire que notre estomac, elle n'a pas un roi en quelque part. Okay. Pourquoi la parole de Dieu parle tant de jeûne, de nourriture? Parce que c'est d'arrêter de faire parler le roi de l'estomac. On fait des fesses, puis je finis ça rapidement. Mais je peux vous dire une chose. L'estomac, quelqu'un qui ne se prive pas, qui n'est jamais en jeûne, je parle, puis qui satisfait son estomac continuellement, il peut risquer de faire des affaires pour manger. Je peux vous le dire. Amen. Gloire à Dieu. On va continuer ce jeûne la semaine prochaine. On va se lever debout. Amen. Gloire à Dieu. Mon mari, lui, il jeûne les chips trois soirs. Après ça, il se regarde dans le miroir et dit, j'ai pas maigri, je dis, réel. C'est faux, tu maigrisses après trois soirs. Je vais aller parler à Dieu personnellement. Moi, ça me prend des mois. OK, là? Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. On va juste terminer par une prière. Amen. Pour remercier Dieu qui nous aide à justement pratiquer notre justice. Amen. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, on te remercie pour ta parole, Seigneur. Parce que c'est toi-même qui dis, Seigneur, que lorsqu'on fait le monde, lorsqu'on prie, lorsqu'on jeûne, et qu'on fait ça vraiment, Père éternel, dans le particulier, en privé avec toi, on sait qu'on reçoit une grande récompense parce que tu aimes, Seigneur, qu'on s'appuie sur toi, Seigneur. Qu'on marche par la foi, qu'on te reconnaisse, Seigneur. Qu'on te reconnaisse dans les voies qu'on pratique, Seigneur. Merci de nous avoir montré l'importance ce soir du jeûne. L'importance de la prière pendant ces deux derniers mois, Seigneur. L'importance, Seigneur, de pratiquer notre justice et de rechercher le royaume de Dieu. Et chacun de nous, Seigneur, on ne s'inquiète pas. On sait, Seigneur, que tu prends soin. Merci de prendre soin. Merci d'ouvrir des portes pour chacun de nous. Merci de nous amener à faire et à être tout ce qu'on peut faire et être, Seigneur. Merci de nous amener à obtenir au-delà de ce qu'on pourrait penser ou imaginer. On te donne la gloire, Seigneur. On te remercie. On te glorifie. Au nom de Jésus. Amen.